marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Et le témoin de ce jour, Alberto Manguel, l'animal lecteur.
Ces milliers de livres qui sont rassemblés ici, où étaient-ils ?
Ils étaient dans un stockage au Canada. Parce que à fur et à mesure que je voyageais d'un endroit à l'autre, j'ai toujours vécu dans des petits appartements ou des petites maisons, donc je n'avais jamais la place pour avoir tous mes livres. C'est la première fois dans ma vie où je peux avoir tous mes livres ensemble. Je pourrais raconter mon autobiographie en suivant les rayonnages.
Une archive de 2005. Pourquoi diable les livres d'Alberto Manguel qui avaient été stockés au Canada, se sont-ils retrouvés déballés et installés dans une grange, une étable du Poitou que Bernard Pivot visitait, émerveillé. Et ceci alors qu'Alberto Manguel n'avait jamais habité la campagne. Ben c'est tout simple, suivez bien. Alberto, qui est de nationalité canadienne, est né à Buenos Aires. Il a accompagné dans le tout neuf État d'Israël son père, nommé là-bas premier ambassadeur d'Argentine, et même premier ambassadeur tout court dans le pays. À Tel Aviv, Alberto a été élevé en allemand par une gouvernante d'origine tchèque qui lui parlait aussi en anglais. Il écrit en anglais, c'est qu'il a beaucoup séjourné au Canada, qui lui a donc donné son passeport dans des régions comme celle de Toronto et de Calgary. Mais il a aussi habité Paris, Célesta, capitale de l'humanisme, et Tahiti, alors qu'il travaille bien mieux dans le froid. On comprend qu'ayant ainsi nomadisé, ses livres pouvaient difficilement habiter sous son toit. Enfin, son couple se fixa à Mondion, une centaine d'habitants, département de la Vienne. Mondion, premier nom, le mont de Dionysos, un ancien presbytère, un jardin, et une grange, une étable, qui devint bibliothèque. Un paradis. Quoi de mieux ? Ah, il y aurait eu, peut-être à quelques kilomètres de là, le bien plus vaste château des Ormes. La famille d'Argenson l'habitait depuis 1729. Le château était réputé pour ça, mieux pour ses bibliothèques. Eh bien, les Ormes sont malades, comme partout en France. Et les contraintes étant ce qu'elles sont, notamment de la part de l'administration, le 9e marquis a vendu. Alberto Manguel a dû faire de même. L'aventure des Ormes a duré 250 ans, celle d'Alberto Manguel 15. Les paradis ne sont pas faits pour durer. Et Alberto Manguel publie chez Actes Sud « Je remballe ma bibliothèque ».
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
Alberto Manguel, bonjour.
Bonjour.
Au fond, on aurait pu mettre tous ces éléments biographiques dans un sac, secouer et sortir tout autrement. Ça aurait eu le même effet.
Tout à fait. Mais nous avons des biographies qui sont parcellées et fragmentaires. Et donc, toute récomposition fait un autre personnage. Mais ça me plaît, le personnage que vous avez décrit.
Alors, vous faites des tournées. Là, il arrive d'ailleurs qu'on vous confonde avec un autre quand on vous accueille dans un aéroport. Et alors, vous vous glissez dans la personne de l'autre, aisément.
Vous faites référence à une chose qui m'est arrivée à Torino. Quand j'étais invité à une foire du livre, j'étais très fatigué. Et on m'accueille, une jeune dame me dit « Bienvenue, monsieur Manguel ». Et j'ai compris qu'elle disait Manguel. Or, elle parlait de Yann Martel, un autre écrivain canadien. Et je me suis glissé dans la peau de Yann Martel. J'étais Yann Martel pendant un ou deux jours. Je répondais à ses questions. Mais c'est facile de le faire parce que nous sommes tellement des personnages. Il faut se souvenir de qui nous sommes. Je me demande chaque matin, j'interroge mes livres, je dis « Bon, qui vais-je être aujourd'hui ?»
J'ai trouvé rue de Rivoli un passage qui vient d'être nommé Walter Benjamin l'année dernière. Vous n'avez pas encore dû voir l'endroit parce que vous n'êtes peut-être pas venu à Paris depuis l'année dernière.
Non, mais je connais le monsieur.
Ah bah oui, bien sûr. Bah vous pouvez nous en faire un portrait, mais dans l'ordre si vous voulez bien. Walter Benjamin, dans l'ordre.
Impossible. Benjamin, c'est trop de personnages. C'est une figure gigantesque, d'une intelligence formidable.
Alors, un moment, il divorce. Et il déballe sa bibliothèque après le divorce. Et je pense que quand vous avez déballé votre bibliothèque pour l'installer sur les rayonnages de Mondrian, vous avez mis les livres en pile, c'était haut comme des colonnes de temple, vous avez peut-être pensé à Benjamin.
Oui, mais je pense souvent à Benjamin parce que c'est une intelligence qui touche à tout. Mais ça m'a semblé étrange, une coïncidence comme celle qui se passe dans la littérature souvent, qu'il a déballé sa bibliothèque dans le petit espace qu'il avait trouvé après son divorce. Et moi, j'ai remballé ma bibliothèque après mon divorce avec la France. J'ai senti que mon ancienne maîtresse m'avait trahi et je me sentis blessé. Je devais quitter la maison, vendre cette maison merveilleuse, perdre ce paradis et remballer mes livres. Et j'ai pensé à Benjamin, comme ça j'ai donné ce titre au livre.
Mais pensons aussi à nous mettre à la place des livres. Parce que ils sont stockés au Canada, ils sont déballés, ils sont remballés, ils sont stockés au Canada de nouveau. Alors, on va prendre deux ou trois exemples des livres qui sont inscrits dans votre vie dès l'enfance. Je pense au Capitaine Nemo et à 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne.
Alors, si vous voulez visiter le Nautilus, monsieur le professeur, je suis prêt à vous en faire les honneurs.
Mais avec plaisir.
Voici d'abord la bibliothèque.
Oh, quelle splendeur!
Aucun endroit sur Terre ne pourrait m'offrir plus de silence et de solitude. Votre cabinet du muséum à Paris jouit-il d'un calme aussi total?
Ah, loin de là! Et que de livres, que de trésors! Mais dites-moi, vous en avez bien là 6 ou 7 000?
12 000, monsieur le professeur. Bien entendu, je les mets tous à votre disposition.
Je vous remercie.
Et vous vous trouverez en pays de connaissance. Venez voir le salon maintenant. J'ai quelques tableaux anciens qui vous plairont, j'espère.
Mmh. Alors c'était un peu un salon, votre étable, grange devenue bibliothèque. Mais
oui.
Je reviens à ma question, Alberto Manguel. Est-ce que vous êtes mis à la place de votre exemplaire de 20 000 lieues sous les mers, qui a dû vivre selon les moments de votre vie, parce que vous l'avez toujours eu quand même à proximité, à des hauteurs, à des profondeurs différentes, enveloppées d'odeurs ou sans odeur autour de lui?
Il y a plusieurs exemplaires des livres de Jules Verne dans ma feu bibliothèque. Parce que d'abord, j'ai lu 20 000 lieues sous la mer dans une traduction anglaise. Ensuite, j'ai eu un exemplaire en espagnol dans mon adolescence avec de très belles illustrations. Et c'est seulement après apprendre le français au lycée où j'avais un professeur qui nous disait « Messieurs, une faute française est une faute morale ». Donc, en dépit de cela, je me suis mis à lire en français et j'ai mon édition Hetzel de Jules Verne.
Quand on lit 20 000 lieues sous les mers dans une chambre d'hôpital et qu'on se souvient de sa première lecture de 20 000 lieues sous les mers quand on avait 10 ans.
Toute lecture est un palimpseste. Donc, je lis jamais un livre pour la première fois parce que on accède, par exemple, à Jules Verne avec ce que les autres ont lu et les illustrateurs ont présenté, les commentateurs ont commenté. Mais après cette non-première fois, les souvenirs des lectures se multiplient. Donc, quand je reviens souvent à 20 000 lieues sous la mer, je me souviens de la maison à Tel Aviv où j'habitais avec ma gouvernante dans le sous-sol. Je me souviens de la chambre que j'avais dans la maison à Buenos Aires où je pouvais monter une bibliothèque d'adolescents. Et je me souviens de la première chambre que j'ai eue en arrivant à Paris en 69, à la rue de Saint-Père, dans un hôtel, sûrement une sorte d'hôtel de passe.
Sûrement, parce que dans le journal d'un lecteur, dans d'autres livres, vous racontez les relations que vous aviez avec ces dames.
Oui, elles étaient très généreuses. Je vous confirme dans vos souvenirs. Mais elle était très, très généreuse. J'avais souvent pas assez pour m'acheter un sandwich, donc elle m'apportait des yaourts et des biscuits lus. Je peux pas supporter les biscuits lus maintenant parce que j'en ai trop mangé en lisant.
Vous avez toujours manqué d'argent, Alberto Manguel, en tout cas pour faire de la bibliophilie stricto sensu. En bibliophilie, on dit d'un exemplaire dans lequel sont glissés des papiers qu'il est truffé.
Oui.
Et vous avez des Jules Verne truffés, par exemple ?
Oui, absolument. Parce que j'aime garder ces souvenirs de lecture dans les livres. Borges, par exemple, gardait de l'argent dans les livres. Il le truffait avec des billets des banques. Moi, je ne mettais pas de l'argent dans les livres, mais des notes, des commentaires, des noms d'amis, des billets de train. Et mes livres sont truffés.
Alors, on ne va pas raconter, parce que vous l'avez trop raconté, comment vous êtes devenu le lecteur de Borges.
Merci.
Borges,
vous m'épargnez ça.
Était dans l'obscurité, ou plutôt dans un brouillard parfois étincelant. Alors justement, j'aimerais que vous nous parliez de la bibliothèque la nuit, ainsi que vous l'avez fait avec Robert Lepage. Alors Robert Lepage, le metteur en scène bien connu, qui donne actuellement à la cartoucherie de Vincennes Katana. Il avait mis au point une manifestation, exposition, un spectacle au Canada, au Québec, précisément avec vous, en 2015.
Est-ce qu'il y a un usage de la bibliothèque le jour et qui est différent de l'usage de la bibliothèque la nuit ?
Certainement.
On entre dans une bibliothèque comme on entre dans une forêt. Des rangées de livres laissent l'impression d'un certain ordre, tout comme des rangées d'arbres, mais vous ne savez pas encore ce qu'est cet ordre. La nuit, certains volumes disparaissent dans l'ombre. Le temps s'étiole et l'espace se réduit au modeste domaine de votre pupitre. Et je n'arrive toujours pas à dire ce qu'est cet endroit peuplé des spectres des mots. Et je cherche encore la réponse.
Ambiance un peu fantastique. On se souvient peut-être pas toujours que vous avez beaucoup travaillé sur le fantastique d'ailleurs. Le fantastique des livres la nuit.
J'aime beaucoup ce monde où tout est normal, tout est naturel, sauf une petite craquelure qui laisse passer l'impossible. Borges disait qu'il s'intéressait à la théologie parce que c'était une branche de la littérature fantastique, moi aussi.
Alors, quand vous êtes dans votre bibliothèque la nuit, quelle que soit la bibliothèque, vous voyez comme des arbres dans les contes de Perrault qui
oui,
tendent leurs branches, qui vous font une ombre tutélaire ou dangereuse.
C'est que, au jour, dans la lumière du jour, l'ordre d'une bibliothèque est visible. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine logique à l'emplacement. Mais la nuit, surtout dans les bibliothèques que j'aime, c'est la pénombre, c'est les contes de lumière qui vous signalent certaines îles dans cette cartographie des mots et qui vous parlent, qui vous attirent comme des vrais fantômes qui apparaissent et qui se présentent à vous. Et donc, je me laisse guider par ces fantômes. Je ne fais pas des choix de livres la nuit. Je laisse que ces contes de lumière choisissent les textes pour moi.
Alors, quand vous étiez arrivé à Mondion, les premiers jours où vous déballiez votre bibliothèque, vous avez passé une nuit ou davantage dans la bibliothèque en train de s'installer. Vous avez passé une nuit avant de remballer ou après avoir remballé?
C'est vrai, quand je suis arrivé à Mondion, quand la bibliothèque avait été montée grâce à une architecte merveilleuse qui était notre voisine, Charlotte David Leonetti, et donc une fois les livres installés sur les étagères, j'ai voulu dormir dans la bibliothèque pour que l'espace m'appartienne, comme un chien qui pisse dans le coin. En remballant ma bibliothèque, dans cet espace d'étagère vide, j'ai pas voulu rester.
Néanmoins, vous avez gardé la clé d'une porte que vous n'ouvrirez plus, une clé que vous avez mise parmi d'autres clés. Puis vous pensez souvent à une lecture qui vous a accompagné toute votre vie, celle du Quichotte. Le Quichotte, lui aussi, avait perdu sa bibliothèque.
Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination. Et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde, écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ouais!
Encore un de ces maudits romans de chevalerie qui lui tourne la cervelle.
Oui, oui, et le chevalier m'attendent. Je vais aller les rejoindre.
Alberto Manguel, dans beaucoup de vos livres, il y a le personnage du Quichotte. Il va chercher la gloire et il va sur les sentiers de l'aventure parce que son entourage a chippé sa bibliothèque. Il en est resté très marri et il recommence.
Oui, faut dire que ce garçon qui a chanté, n'est pas Don Quichotte. Don Quichotte n'avait pas cette énergie de la jeunesse. La tragédie au début du roman, c'est que quand Quichotte sort et sa première aventure, il revient et la servante, sa nièce aussi, ont décidé d'emmurer la bibliothèque comme s'il n'existait pas. Et elle lui raconte que un magicien est venu dans un nuage de fumée et a pris ses livres. À partir de là, Quichotte n'ouvre plus un livre. Et il s'élance dans l'aventure, il va chercher Sancho Panza, et c'est les lectures antérieures qui lui servent à se battre contre l'injustice dans le monde. Donc, moi, en remballant ma bibliothèque, j'ai senti un peu ça, que peut-être le moment de la lecture avec les livres physiques était fini, et que je devais aller à l'encontre du monde seulement avec les souvenirs du livre, avec la bibliothèque imaginaire que je portais avec moi. Et c'est comme ça que j'écris maintenant, avec ce que ma mémoire, qui est une bonne bibliothécaire, me laisse consulter.
On va parler des bibliothèques publiques, parce que vous les fréquentez. Faute d'avoir accès quotidien à vos livres qui sont maintenant dans des cartons.
Mais j'étais pendant 3 ans directeur de la Bibliothèque nationale de l'Argentine.
On va y venir. Au Chili voisin, Pinochet voulait interdire Don Quichotte ?
Oui, Pinochet a interdit Don Quichotte parce qu'il considérait que c'était un appel à la désobéissance civile. Et il avait absolument raison. Les censeurs sont des très bons lecteurs. Parce que le censeur décèle dans l'œuvre peut-être des intentions secrètes ou des lectures secrètes que le lecteur courant ne voit pas. Donc Pinochet avait raison de dire que Don Quichotte est un appel à la désobéissance civile. Parce que l'important pour ce personnage, c'est que devant l'injustice du monde, il faut agir.
Alors vous voulez parler de vos 3 ans à la Bibliothèque nationale de Buenos Aires, qui ont suivi la perte de votre bibliothèque au mont de Dionysos à Paris. Alors là, vous tolérerez d'entendre, parce qu'il a été l'un de vos illustres prédécesseurs à ce poste, Borges.
La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos termitios.
En 1955, le gouvernement de Perón tombe. Pour Borges, c'est la fin du cauchemar. Sur les instances de Victoria Ocampo, Borges est nommé directeur de la Bibliothèque nationale. Il se retrouve maître d'un lieu qu'il avait comparé au paradis. Il est aussi l'héritier d'une étrange tradition.
Il y a une histoire assez étrange. Un ancien directeur de la bibliothèque était un grand écrivain français, il écrivait en espagnol, inconnu en France, Paul Groussac. Il était directeur de la bibliothèque et aveugle. Et moi, j'héritais ces deux choses, la cécité et la direction de la bibliothèque. Puis j'ai découvert qu'il y avait eu un autre directeur avant Groussac et avant moi, qui était aussi aveugle. C'est une triple dynastie.
Lent dans l'obscur, j'explore la pénombre creuse avec une canne incertaine. Moi qui m'imaginais le paradis sous l'espèce d'une bibliothèque. Quelque chose que je sais que ne désigne pas le mot hasard gouverne ces choses. Un autre déjà reçu en d'autres confuses soirées, les volumes nombreux et la nuit. Errant par les lentes galeries, il m'arrive de sentir avec une vague horreur sacrée que je suis l'autre, le mort, qui aura fait les mêmes pas, les mêmes jours.
Plusieurs de vos prédécesseurs aveugles à la Bibliothèque nationale de Buenos Aires qu'on vous propose à votre grande surprise. Borges avait, je crois, touché des doigts la maquette du bâtiment dans lequel oui. vous avez œuvré. Il avait été très content, il avait dit « c'est une horrible machine à coudre ».
Oui, Borges avait son bureau dans un beau bâtiment du 19e et le gouvernement a décidé de déménager la bibliothèque et l'installer dans une monstruosité brutaliste qui a été construite dans les années 90 d'après un modèle des années 60. Et Borges détestait cette maquette qui, heureusement, il n'a pas pu voir.
Mais est-ce que vous êtes tombé au bon moment? Je veux dire que le souci de toute grande bibliothèque aujourd'hui est d'entrer de plein pied au cœur même du monde numérique.
Oui, mais moi, en tant que directeur de la Bibliothèque nationale de l'Argentine, et non en tant que lecteur privé, je devais encourager la digitalisation, la numérisation des œuvres. Mais je me suis senti comme le pape défendant l'islam, parce que en tant que lecteur personnel, je ne lis pas des livres à l'écran. Même pas un téléphone portable. Mais en tant que directeur de la bibliothèque, je devais avancer dans le champ de la numérique.
Mais si vous posez un instant, Alberto Manguel, le langage un peu officiel, et que, en vérité, vous disiez vos motifs d'inquiétude devant le comportement de lecteurs des jeunes générations. C'est vrai quand même que les classiques qui vous ont accompagné, vous, Ils sont beaucoup moins lus par les jeunes générations.
Quand on me parle du problème de la lecture des jeunes qui lisent moins de choses importantes, le problème se place à l'intérieur d'un problème beaucoup plus grand, beaucoup plus large, qui est celui de notre société. Nous sommes comme jamais avant dans une société de consommation. La société de consommation a besoin de consommateurs. Or, le consommateur ne peut pas être un lecteur intelligent, ne peut pas être un animal lecteur, comme vous l'avez dit. Donc, la société n'encourage pas cela. Nous avons transformé nos écoles, nos universités, dans des lieux d'entraînement pour l'usine, pour le bureau, et non comme ça doit être des champs de liberté absolue pour l'imagination. Donc devant ça, ce n'est pas étonnant qu'un jeune dise, on me dit constamment à la télé, dans les publicités, que ce qui vaut est ce qui est facile et ce qui est bref. Donc, à côté de ça, la lecture est difficile, mais est difficile comme une qualité positive. La difficulté est une qualité positive et prend son temps. Elle ne peut pas être rapide, même si nous lisons rapidement. Donc, comment lutter contre la force de la société qui impose des valeurs complètement contraire à ce de l'imagination libre et de l'acte intellectuel. Mais non seulement ça, acheter un livre sur Amazon n'est pas acheter un livre, parce que acheter un livre et parler avec un libraire, et ouvrir le livre, le sentir, lire quelques phrases, voir s'il y a une amitié. Mais comme les relations sexuelles aujourd'hui se passent d'abord par des choses comme Tinder, donc vous connaissez pas la personne, vous avez son image, vous avez les quelque chose que elle ou il vous disent sur l'écran. Comment s'étonner que les livres s'achètent aussi de cette façon virtuelle? Moi, je crois toujours, mais je suis vieux, à l'objet physique comme au sexe physique.
Écoutez, moi j'ai quand même des motifs d'optimisme. D'abord, les livres d'Alberto Manguel, parfois aux éditions de l'Escampette, le plus souvent aux éditions Actes Sud, continuent de se vendre. Et puis quand même, je vous donne des nouvelles de l'édition française, parce que vous n'en avez peut-être pas, puisque vous vivez à New York maintenant. Grand motif d'optimisme, le premier tirage de Michel Houellebecq, 300 000 exemplaires, n'a pas été suffisant, il a fallu en faire 50 000 de plus. Qu'en pensez-vous ?
J'aime pas Michel Houellebecq.
Mais encore.
Bon, mais c'est très bien que les livres se vendent. Très bien. Mais bon, il y a Paolo Coelho qui se vend aussi et Amélie Nothomb qui se vend aussi.
On n'en saura pas plus parce que vous êtes devenu plus discret, vous étiez plus méchant autrefois, Alberto Manguel, mais vous riez
c'est
maintenant.
C'est l'âge.
Merci à vous, votre dernier ouvrage. Je remballe ma bibliothèque. L'émission était préparée par Franck Olivard, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, la technique Gilles Gaillard, la réalisation Audrey Ripouille.